Accès libre.
Bonjour tout le monde, ici Benoît Racette, c'est l'heure d'Accès libre et on parle un peu temps libre ou temps compté aujourd'hui. Temps libre peut-être pour le bénévolat, parce qu'avec Jean-Marie Lapointe et Isabelle Ducharme, on discute bénévolat, ou cette manière là, de s'investir dans sa communauté, à l'occasion de la campagne annuelle du Réseau de l'Action bénévole du Québec. On se questionne aussi sur le temps peut-être un peu trop compté. Vous me voyez venir, on parle de l'application stricte ou abusive du ministre responsable de l'aide sociale lorsque les personnes ont des compensations symboliques ou font du travail à la journée. On comprend mieux aussi le retour à la vie militaire et les programmes pour aider les personnes en situation de handicap avec le ministère des Anciens combattants. Jacinthe Roy, notre chroniqueuse de philanthropie, pose la question des porte-paroles et des ambassadeurs pour nos campagnes et on reçoit une incroyable ambassadrice, Diane Bergeron de l'INCA, qui court pour donner des lecteurs braille à des élèves aveugles du Rwanda. Sur Canal M, la radio de Vues et Voix. Les fonctionnaires de l'aide sociale ont coupé le 1$ par jour de récompense que touchait Myriam Garcia-Cournoyer, une jeune trisomique participante dans un centre d'artisanat l'Outaouais. Et pire encore, on a décidé de lui retirer sur son maigre chèque l'argent qui était amassé. Évidemment, là, par petite poignée, là, hein, pas d'un coup. Et avec nous, pour comprendre les agirs du ministère responsable de l'aide sociale, Geneviève Guernier, coordonnatrice à l'interne au Front commun des personnes à cité sociale du Québec. Bonjour Geneviève.
Bonjour Benoît.
Rappelez-nous les faits sur cette inquiétante histoire de Myriam Garcia Cournoyer.
Alors, Madame Garcia Cournoyer travaille pour un organisme qui emploie des personnes avec des problèmes de déficience pour faire des objets d'artisanat qu'ils revendent. Et en échange, les personnes reçoivent un montant symbolique pour les remercier, mais aussi pour les encourager à continuer à maintenir leur activité. Ce montant symbolique n'est pas un salaire en tant que tel. L'organisme ne pourrait probablement pas payer salarier les personnes en respectant le salaire minimum. Et donc, il y a une espèce de compensation vraiment symbolique, mais qui a un impact sur le désir des personnes de continuer à maintenir leur activité. Et c'est ces montants-là qui ont été visés parce que la loi de l'aide sociale, la loi prévoit que les personnes qui reçoivent des salaires peuvent avoir un montant, par exemple, dans le cas de Mme Cournoyer, qui est au programme de solidarité sociale, elle aurait droit à un salaire de 100$ par mois.
Mm-hmm. Au maximum.
Au maximum. Et tous les montants supplémentaires seraient coupés directement de son chèque. Dans ce cas-là, comme il ne s'agit pas d'un salaire et qu'il ne s'agit pas non plus d'un cadeau comme un cadeau d'anniversaire ou un cadeau de Noël, les montants récurrents sont retirés purement et simplement.
Donc, c'est important le mot que vous utilisez. Aussitôt qu'on voit des revenus récurrents, même si c'est ridicule, ça, la loi le vise et l'enlève.
Oui, exactement. Et ça, c'est vraiment important de le mentionner, que c'est la loi qui prévoit ça, parce que la couverture médiatique a beaucoup, beaucoup visé les fonctionnaires bêtes et méchants qui auraient exercé trop de zèle, qui auraient exercé la loi aveuglément, mais c'est la loi qui exige ça.
Ouais.
C'est vraiment des personnes qui ont des commandes, qui ont des directives de leur direction, et ces directions-là reçoivent des directives du ministère, ce qui fait qu'on s'est retrouvé dans une situation où le bon ministre a corrigé ses fonctionnaires trop zélés. Mais la réalité, c'est que c'est le bon ministre qui est responsable de faire exercer cette loi-là.
Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de pouvoir. On n'est pas obligé d'expliciter en quoi, mais avec les différentes modifications, il y a toujours eu davantage de pouvoir, ce ministre-là.
Tout à fait, tout à fait.
Parlons du bon ministre Blais, alors. Est-ce qu'il y a d'autres exemples dont il ne serait pas responsable et que vous trouvez qu'il y a des correspondances là, avec cette histoire-là de Mme Garcia Cournoyer?
Bien, c'est-à-dire que nous, ce qu'on observe dans à peu près toutes les situations, on a tout le temps la sensation qu'il y a un dérapage continu. Moi, ça fait 6 ans que je travaille dans ce milieu-là et je sens une dégradation, puis je l'ai vu confirmer cette dégradation-là par des gens qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que moi.
Ouais.
C'est une loi qui est très large, qui est très vague et qui est prévu comme tel, on nous dit, parce que ça doit laisser plus de marge de manœuvre aux agents qui sont en contact avec les personnes. Mmh. Les agents qui sont censés connaître les personnes pour qui ils travaillent, avoir le dossier en main, savoir quelles sont leurs compétences, les possibilités pour ces personnes-là. Mais la réalité, c'est que les agents ne connaissent plus du tout les personnes avec
souvent,
qui ils travaillent.
Souvent, ils peuvent avoir combien de personnes à leur charge, combien de dossiers sur leur responsabilité, des centaines.
J'avoue que je ne le sais pas, mais nous, on était en
contact...
J'ai
déjà entendu parler de 3000 il y a longtemps, là, il y a longtemps. Mais non, mais
on
donc...
rit, mais c'est pas drôle.
Non, c'est pas drôle du tout. En fait, donc, on comprend le contexte général. Vous, comme intervenante, même si vous êtes un regroupement, donc vous regroupez des intervenants, mm-hmm. si on peut dire, vous avez constaté d'autres applications aussi strictes que celle-là. Peut-être que vous pourriez nous en parler.
Bien, par exemple, je pense tout de suite au cas de la notion de vie maritale, qui est en fait un espèce de mariage fiscal de deux personnes qui vivent ensemble depuis au moins un an. Mm-hmm. Il y a certains critères, là, par exemple, le fait que les voisins, amis, familles considèrent que la personne est un couple et le fait que les deux personnes s'entraident. Ce qui fait que des personnes qui sont des colocataires, qui se connaissent à peine, mais qui décident de partager, par exemple, les frais pour l'épicerie, mm-hmm. L'un garde l'enfant de l'autre, l'autre fait un peu l'organisation du budget de l'un. Ces personnes-là s'entraident. Il y a de l'argent qui transite dans le compte de l'un et de l'autre. Mais s'ils sont à l'aide sociale, après un an, ils peuvent être mariés fiscalement, on va dire ça comme ça, considérant la notion de vie maritale, ce qui fait qu'ils vont recevoir non pas deux chèques, mais un chèque conjoint.
C'est une grosse coupure qu'ils vont vivre.
C'est le quart de leur revenu.
Mais dans le cadre, disons, de revenus de travail à la journée ou de compensation quelconque, est-ce qu'il y a d'autres exemples de gens qui auraient vécu le couperet comme ça?
Okay. Ben, en fait c'est quelque chose qui revient beaucoup.
Comme des femmes, par exemple, qui ont exercé même...
Ben, oui, on parlerait, par exemple, de la situation des femmes qui font du travail du sexe, qui font de la prostitution, qui se voient, en fait, un peu obligées là, montrer leurs revenus aux agents. Elles vont être appelées au bureau, on va leur dire que c'est impossible qu'elles arrivent, considérant leur loyer, leurs dépenses mensuelles et le chèque qu'elles reçoivent. Et donc, l'agent les coince un peu et elles finissent par avouer, oui, j'ai fait du travail du sexe. Et donc, l'agent essaie d'évaluer avec la personne quel montant elle le fait mensuellement. Ouais. Et à partir de cette évaluation-là, évidemment, il n'y a pas de facture, il n'y a rien pour prouver, donc c'est une approximation. La femme va devoir rembourser ces sommes-là intégralement parce que c'est des sommes qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration. Mm-hmm. Donc, elles doivent être coupées complètement du chèque. Et ça fait que les femmes s'endettent énormément des sommes approximées.
Et comment sortir, disons, en parlant de la situation, si ces dames-là, ces femmes-là veulent se sortir
de
ce travail? Voilà, elles sont obligées d'aller là. Mais il y a même une histoire qui avait été soumise à notre attention l'année dernière qui nous avait grandement choqué. Cette femme en situation d'handicap qui mendiait et qui s'est vue retranchée, étalée sur plusieurs chèques, on peut l'imaginer, mais retranchée 25 000 $ suite à des estimations. Ça, vous avez constaté ça aussi. Est-ce que c'est un peu le même genre d'application qu'on a fait des règles?
Mais je pense que c'est la logique, c'est l'esprit de la loi qui est exercé à ce moment-là. Ça s'est rendu quand même assez loin. Ça a passé dans les journaux et puis la loi n'est pas dérangée par ce genre d'exemple-là. Ça paraît mal pour le ministre, ça paraît mal politiquement, mais c'est tout à fait dans la logique. Et les fonctionnaires qui ont fait ce travail-là, même si moralement on a envie de les condamner, ils répondent aux commandes qu'on leur donne et ils agissent conformément à la loi, effectivement. Mmh. Donc, on sait que c'est une femme qui vivait dans une grande pauvreté et qui maintenant se retrouve avec une dette qu'elle ne pourra jamais rembourser. Voilà. C'est certain qu'elle va mourir avec une dette, qu'elle va payer, en fait, probablement seulement les intérêts de sa dette jusqu'à la fin de sa vie.
Et supposons que les gens qui nous écoutent, là, ou n'importe qui serait bénéficiaire de l'aide sociale et qui vivait des injustices comme celle-là, qu'est-ce que vous leur recommandez? Qu'est-ce que vous leur dites?
En fait, contacter un groupe de défense collective des droits des personnes assistées sociales, c'est vraiment très, très important parce que les agents ne sont pas en mesure de donner l'information, de donner l'heure juste. Là aussi, il y a des questions de commande puis de directive. Les groupes de défense des droits sont là pour ça, précisément, pour informer les personnes, pour leur donner le moyen de prendre leur propre défense, pour les soutenir dans cette défense-là. Et ils ont évidemment la connaissance fine des lois, les ressources pour pouvoir les appuyer.
Donc, on repère, pour trouver ces groupes de défense collective des droits des personnes assistées sociales, on repère votre site web fcpasq.qc.ca. Donc, on va trouver la rubrique « À propos du FCPASQ ». Et dans le menu déroulant, on pointe sur « Membres ». Donc, on va retrouver par région le groupe qui pourrait nous aider à nous défendre. Merci beaucoup, Geneviève Guernier, du Front commun des personnes assistées sociales du Québec.
Merci.
Pour rendre la lecture accessible, c'est ce que fera Diane Bergeron, directrice générale Relations stratégiques et mobilisation pour l'organisme INCA. Bonjour Diane Bergeron.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Pourquoi vous avez décidé de courir 78 km en 4 jours en janvier prochain?
Pour moi, c'est très important que les enfants qui sont aveugles puissent avoir les livres en braille. Mm-hmm. Et le Orbit, c'est une machine, puis et le braille, et les enfants en Afrique, en Rwanda.
Au Rwanda, oui.
Ces enfants n'ont pas la chance d'avoir une machine comme ça parce que c'est trop cher.
Ouais.
Alors, pour moi, je veux courir pour avoir assez de support, les donne pour ça, pour okay. envoyer les machines des Orbit à l'école en Rwanda pour les enfants aveugles.
Excellent. On va reparler de cette campagne qui est super importante, mais si je peux me permettre, je vais m'attarder un peu à vous parce que vous êtes une personne très engagée dans votre communauté. On se rend compte que vous êtes active depuis fort longtemps et vous vous adonnez de plus en plus au sport. On remarque ça dans les dernières années. Est-ce que vous manquiez de défis dans votre vie pour faire du sport comme ça?
Oui, je fais beaucoup de sport.
Oui.
Et je fais mon sport favori, c'est le triathlon.
Oui, exactement.
Oui, j'ai fait l'année passée, j'ai essayé de faire un Ironman. Et j'ai pas complété totalement, j'ai pas fini, mais j'ai à peu près là. Alors, je vais essayer encore le août l'année prochaine.
OK.
Je vais faire le Ironman Mont-Tremblant à Québec.
Ah, quand même. Bon, ben on vous souhaite la meilleure des chances, mais revenons peut-être à cette course que vous faites en janvier. Il faut savoir que Orbit 200, qui est le nouvel afficheur braille abordable, dont votre organisme est le distributeur officiel au Canada, là, est un peu la solution pour aider la lecture. J'aimerais ça que vous nous expliquiez, c'est quoi le Orbit 200 ou qu'est-ce qu'il fait?
C'est une machine qui fait le braille sur votre ordinateur.
Okay.
Vous attachez à l'ordinateur, puis c'est comme les personnes qui est voyant, tu vois sur ton ordinateur tous les mots dans le livre, mais pour okay. les personnes qui sont aveugles, ils ne voient pas. Alors, cette machine fait en braille.
OK. Donc, c'est la machine qui permet de transformer les livres qu'on aurait, par exemple, mis dans l'ordinateur en braille.
Oui,
et donc, votre organisme est-il le seul distributeur au Canada pour cette nouvelle invention-là?
Oui, c'est ça. Pour cette machine, c'est INCA seulement.
OK. Rappelez peut-être aux gens à quel point vous avez contribué au développement de Orbit 200. Racontez-nous ce que vous avez fait pour aider à développer cela.
INCA est là à le commencement de développer le Orbit.
OK.
Il y a 10 organisations dans le monde. Mm-hmm. INCA est un des organisations. Et puis, on a maîtrisé un groupe ensemble. Il y a des personnes qui étaient aveugles, puis ils donnaient leurs opinions et essayaient avec de contribuer du produit.
Okay.
Alors, pour moi, je suis là parce que moi, je suis aveugle moi-même et je lisais le braille.
Donc, vous lisez le braille, mais vous l'avez appris un peu plus tard. Hein. Vous avez déjà écrit quelque part que vous utilisiez le braille un peu moins que le livre audio, hein, comme on propose ici. Vous savez qu'à Vues et Voix, tout juste à côté, on distribue des livres audio. Vous saviez ça?
Oh non, je ne connais pas.
Ah oui?
Parce que moi, j'habite en Ontario.
OK. Mais en fait, ça existe au Québec et donc, je sais que vous aimez beaucoup les livres audio. Mais revenons peut-être à votre campagne. Vous courez pour aider les enfants rwandais à avoir accès à Orbit 200, pour lequel vous avez beaucoup collaboré, contribué. Parlez-nous peut-être de la situation des enfants aveugles au Rwanda.
Cet enfant-là est dans une position qui n'est pas bien. Il y a moins que 10% des enfants aveugles qui habitent en Afrique qui a la chance d'aller à l'école. Moins de 10%, oui.
OK, parfait.
Alors, aussi que les livres en braille ou des livres qui est accessible par les personnes aveugles dans le monde, il y a moins que 7% des livres qui est accessible. Alors, en Afrique, ça a changé que moins que 1%.
Ah oui, donc 1% de la population d'Afrique, notamment au Rwanda, a accès aux livres accessibles. Donc, c'est pour ça que vous courez pour que des Rwandais aient accès à Orbit 200, qui peut lire et le transformer en braille. Alors, on vous suit, pour votre course en janvier. Pour vous aider, on peut aller sur inca.ca et repérer la rubrique « Encourager Diane ». Alors, merci, Mme Bergeron.
Merci beaucoup.
Bonne course.
Merci.
consacré du temps à convaincre Guylaine Tremblay ou une vedette bien connue, c'est le plus souvent notre première idée quand on veut donner de la visibilité à notre campagne ou à notre organisme. Mais est-ce que ces personnes sont nos meilleurs ambassadeurs? C'est une bonne question. Et avec nous pour y répondre, notre chroniqueuse philanthropie, Jacinthe Roy, directrice générale de l'Association des professionnels en gestion philanthropique. Bonjour, Jacinthe Roy.
Bonjour,
Benoît Recette,
ça va bien?
Oui, OK, donc bonjour Jacinthe. Mais vous êtes d'accord quand même avec moi, avec ma présentation. C'est qui nos meilleurs ambassadeurs au fond?
Ben, en fait, je pense que lorsque vous aviez parlé, Benoît, là, d'une personnalité publique, je pense que tout d'abord et avant tout, c'est qu'on va rêver tous hein, d'avoir un Guy Lepage, d'avoir une Véronique Cloutier comme porte-parole, mais bon, on sait que c'est pas toujours accessible. Et puis, pour faire croître sa notoriété, finalement, on doit avoir accès à des ressources qu'on a tout près de nous, des ressources incroyables, puis c'est nos ambassadeurs.
Ah, donc, c'est quoi exactement alors un ambassadeur?
Un ambassadeur, en fait, là, ça va être une personne qui est près de nous et qui embrasse notre cause avec passion. Mmh. Et ça, ça n'a pas besoin d'être une personnalité publique pour véhiculer notre message. Mais je pense que ça vaut la peine d'identifier dans nos cercles rapprochés c'est qui parmi les parties prenantes là, qui pourrait mieux nous représenter. Puis pour parler de parties prenantes et de meilleurs ambassadeurs, là, j'aime bien utiliser l'analogie là, des sillons là, d'une pierre qu'on va lancer dans l'eau.
Okay.
Donc, vous savez, quand on lance la pierre, on voit une première vague qui est très, très proche. Alors ça va être les personnes qui sont les plus proches de nous et qui connaissent le mieux notre cause. Ouais. On parle de notre conseil d'administration, nos employés, qu'on oublie souvent, mais les employés, les bénéficiaires, les bénévoles et même les donateurs majeurs, là, ceux qui donnent des dons plus substantiels. Alors, ces personnes-là qui figurent parmi les ambassadeurs les plus proches qui pourraient servir notre cause.
Et comment on les choisit dans ces sillons-là? Là, comment on va choisir les ambassadeurs?
Ben, en fait, ils sont déjà proches.
Ouais.
Donc, à partir d'un moment où on les connaît aussi souvent, mais ils sont touchés par la cause et ils veulent faire grandir cette cause-là. Mmh. Donc, c'est sûr que quand on regarde proche de nous, on va risquer d'en identifier des ambassadeurs gagnants, si vous voulez, là, qui vont vouloir parler encore plus de ce qu'ils font auprès de notre cause.
Bien sûr.
Ils sont impliqués. On voit aussi dans un deuxième sillon, on peut parler bien sûr des donateurs qui nous donnent de façon récurrente. Ça peut être des petits montants. On pense pas à des donateurs très, très, très qui donnent en des montants incroyables, mais la générosité, c'est un don qui revient de façon récurrente à tous les mois, chaque année, que ce soit un petit don ou un grand don.
Mm-hmm. Donc, c'est la constance du don qui nous permet d'identifier l'engagement. Ouais.
Exactement. Et si la personne nous donne depuis 10 ans 25 $ par année, c'est qu'à quelque part, elle pose le geste et puis elle a la cause à cœur.
Bien sûr.
On peut penser à nos fournisseurs aussi. Hein. Des fois, on les oublie, les fournisseurs, mais ils sont souvent proches de nous. Dans un sillon un peu plus grand, bien sûr, on va vouloir viser le grand public en général, hein, parce que qui ne rêve pas d'être connu de tous? Mais là, je pense que si on met tous nos efforts sur cet intérêt à être connu du grand public, on risque de connaître un peu des échecs là, par rapport à la croissance de notre notoriété. Mieux vaut commencer près de nous que de viser trop large dès le départ.
Donc, ça veut dire qu'on peut toucher autre chose que le grand public. On peut toucher des groupes, disons, de la société ou peut-être des donateurs potentiels, des choses comme ça?
Exactement. Okay. Si on identifie 3-4 ambassadeurs là, qui sont vraiment très près de nous et puis qui ont la cause à cœur, ces 3-4 personnes-là, puis là, on va sortir des médias traditionnels, là, parce que c'est pas tout le monde qui va aller à Tout le monde en parle et avoir un auditoire, accès à un auditoire d'un million de personnes.
Ah oui?
Mais, okay. Non, j'aimerais bien un jour peut-être.
Hein? Non, on va y arriver.
On va y arriver. Et mais, alors, avec les médias sociaux, les médias non traditionnels, un ambassadeur qui parle à 100 amis de ce qu'il fait, qui parle avec son cœur, hein,
oui.
Ce qui va être important. Là, on fait pas du marketing pur. Là, on parle de quelqu'un qui va faire un storytelling, qui va nous expliquer ce qu'il fait, pourquoi il le fait.
Oui, qui va raconter une histoire. Oui, c'est ça.
Exactement. Exactement. Et l'ambassadeur qui touche 100 personnes, et sur ces 100 personnes-là, il y en a peut-être 100 qui vont dire « Wow, moi, j'ai envie d'embarquer, puis je vais partager le message. » Alors là, on vient de décupler notre message sans avoir fait de trop grands efforts.
Et vous en parlez, vous l'avez déjà un peu annoncé. Là. Qu'est-ce qu'il fera cet ambassadeur-là? C'est quoi ses rôles exacts?
Oui, on peut lui attribuer plusieurs rôles. C'est celui de porte-parole, c'est ce qu'on vient de discuter dans le fond, c'est de parler de pourquoi il s'implique, pourquoi il est proche de la cause. Donc là, les porte-parole, on peut en avoir à différents niveaux, mais c'est important d'avoir des gens qui vont parler de nous.
Oui.
Ensuite de ça, on peut leur donner aussi le rôle de collecteur de fonds. Fait que là, on parle aux des ambassadeurs, par exemple, qui, on le voit de plus en plus, là, qui participent dans un défi sportif, une activité qu'on appelle peer-to-peer, donc personne à personne. Et puis l'ambassadeur va solliciter des dons auprès de 10 de ses amis.
Oui.
Et ces 10 personnes-là vont en parler et en parler et en parler.
OK. Donc, ça peut être vraiment autour de soi, ces personnes-là, comme dans ces exemples de collecte de fonds-là, vont motiver ou faire la promotion autour de leur secte très proche.
Exactement. Et puis, ce qui est la beauté de la chose, c'est que c'est notre message, justement, c'est bien ficelé, c'est bien attaché aussi à ce qu'on fait et qu'on est capable de démontrer nos impacts. Alors, notre message voyage.
Oui.
Rapidement et facilement.
Et efficacement peut-être même. Avant qu'on se quitte, ce serait quoi les pièges à éviter, Jacinthe?
Oui, ben en fait, le premier piège, là, c'est ne pas avoir de plan de match si on se lance dans une campagne d'ambassadeur, quel que soit l'objectif. Si on n'est pas précis dans les demandes qu'on va faire à nos ambassadeurs, il est clair que l'ambassadeur ne va pas s'activer ou va perdre l'intérêt.
Okay.
Et puis ça, c'est le deuxième piège aussi, c'est de prendre pour acquis que nos ambassadeurs vont s'activer seuls.
Mm-hmm.
Alors, c'est faux, il faut les accompagner, même s'ils aiment beaucoup la cause. Si on ne leur donne pas le message, si on ne leur donne pas les outils de communication et surtout si on ne les écoute pas pour ajuster, nous, notre plan de match, parce qu'un plan de match théorique, un coup qui arrive dans la réalité, la théorie, des fois, prend le bord et puis on s'adapte. Donc, il faut les écouter pour s'adapter, nous, à ce qu'ils font. Et bien sûr, le troisième piège, ça va être de ne pas remercier et de ne pas reconnaître.
Ah, c'est si important. Il faut reconnaître les bénévoles, les ambassadeurs. C'est un beau mot de la fin. Merci, Jacinthe Roy, directrice générale de l'APGP.
Au plaisir.
À bientôt.
Bonne journée. Au revoir.
Écoutez Accès libre avec Benoît Racette.
Les anciens combattants peuvent revenir de mission avec toutes sortes de blessures. On pense évidemment à celles qui handicapent physiquement et aussi à ces chocs post-traumatiques. Mais le retour sur le marché du travail ou, disons, la réintégration dans le monde civil est souvent un défi de tous les instants pour ces personnes. Et c'est pour cette raison qu'on a avec nous Mme Faith McIntyre, directrice générale de la division de la politique et de la recherche au ministère des Anciens combattants, qui propose des programmes pour soutenir ces personnes. Bonjour, Mme McIntyre.
Bonjour, M. Racette.
Merci d'être avec nous. Je vous demanderai d'emblée, quelles sont les situations du handicap les plus fréquentes avec lesquelles les anciens combattants doivent vivre?
Oui, d'accord. C'est certain qu'il y a une variété de conditions.
Mm-hmm.
Les affections les plus communes incluent des troubles de l'audition et des défis avec des capacités auditives.
Oui.
Qui est suivi par des maladies lombaires, l'arthrite et certainement des troubles de santé mentale comme la dépression ou le stress post-traumatique.
Et donc, ce serait à peu près dans cet ordre-là, le plus souvent à l'ouïe ou une déficience auditive, ensuite des maladies notamment arthritiques. Il faut dire d'ailleurs qu'un Canadien sur sept à peu près en est atteint. Et finalement, dans le peloton de tête, les difficultés de santé mentale. Ça serait ça la répartition.
Exactement, oui.
Est-ce que vous avez d'ailleurs des chiffres ou des faits saillants sur ce nombre d'anciens combattants?
Sur les nombres comme tels, je ne les ai pas en avant de moi. Non.
OK. mais donc, vous vous rappelez quand même de l'ordre de grandeur. Là.
C'est ça, c'est l'ordre de grandeur, certainement, comme je l'ai indiqué, oui.
OK, parfait. Dans votre fonction, on voit l'ensemble des activités de recherche du ministère. Est-ce que vous trouvez que la recherche sur les anciens combattants s'est intensifiée dans les dernières années?
Certainement, nous sommes en train de faire une recherche et une analyse très étroite. Ça fait plusieurs années qu'on fait des études sur la vie après le service militaire, mm-hmm. puis c'est des sondages auprès des vétérans après qu'ils se sont libérés, mm-hmm. Que ce soit de la force régulière ou de la réserve. Puis ça nous donne beaucoup d'informations en tant que la population comme telle pour pouvoir mieux gérer les programmes et les services, incluant certainement, comme vous avez indiqué, des programmes qui desservent à la transition et à l'emploi.
OK. Parce que c'est sûr, c'est des moments importants là, quand on revient. Après ça, éventuellement, on souhaite réintégrer peut-être la vie active. Là. Est-ce que, d'ailleurs, on va parler des programmes spécifiques à cet égard, mais est-ce que vous trouvez qu'on est plus sensible à ces étapes-là aujourd'hui dans la population canadienne, par exemple? Est-ce que les gens reçoivent mieux cette soutient mieux les personnes ou sont mieux informées?
Moi, je dirais certainement que les vétérans comme tels sont certainement une population importante, mais ils ne sont pas nécessairement tout blessés dans le sens que leur capacité, comme n'importe quel autre Canadien ou Canadienne qui ont souffert d'une maladie ou une trouble physique, ils ont une capacité énorme pour pouvoir travailler et de donner à un organisme ou un employeur. On sait qu'ils sont reconnus partout dans le monde pour leurs compétences, leurs aptitudes, et il y a une connaissance spécialisée, exemple même un leadership ou un esprit d'équipe qu'ils apprennent à travers les forces canadiennes qu'on ne peut pas mesurer. Et pour un employeur, c'est des atouts importants.
Mm-hmm. Et même au niveau de la logistique, hein, parce qu'en temps de guerre, c'est assez important de savoir bien gérer les détails, la logistique, etc.
Je suis complètement d'accord comme exemple, certainement.
Et donc, peut-être que vous pourriez un peu mieux nous décrire, disons, les obstacles que doivent surmonter ces personnes-là, qui ont pourtant un grand potentiel à offrir.
Oui, certainement. Je veux vous dire qu'une des différences frappantes entre les vétérans et la population en général, c'est qu'on voit que 1 sur 3 travaille avec des limitations d'activité.
Mm-hmm.
Puis ça, c'est un taux qui est 3 fois plus élevé que celui des autres Canadiens.
Ben oui, voilà.
Donc, les vétérans rentrent dans un emploi, ils se retournent, ils sont capables de faire la transition, mais ils sont quand même dans une situation où qu'il y a un défi en tant que capacité de limitation d'activité. Voulant dire qu'il y a juste besoin d'avoir une sensibilité à cet égard de la part des employeurs.
Mm-hmm. Donc, la première chose, c'est ça, que les employeurs soient sensibiliser, qu'ils soient plus ouverts à intégrer des gens qui ont déjà été dans les forces.
Certainement. Puis avec, comme j'ai dit, les atouts qu'on vient juste de mentionner, c'est très important de les avoir, mais aussi d'être sensible à ces capacités, aussi dépendamment, encore une fois, de leurs limitations d'activité.
Et donc, est-ce qu'il y a d'autres défis à part le fait de sensibiliser les employeurs eux-mêmes?
Oui, certainement. Un autre exemple que je peux donner, M. Rossette, c'est en tant que l'aspect culturel.
Mm-hmm.
Donc, encore une fois, c'est de sensibiliser les employeurs. Puis je peux mentionner certainement tantôt des sites web ou des programmes pour les employeurs comme tels. Mais la culture en dedans des Forces armées canadiennes, c'est une culture très importante, très différente. Le fait même de porter un uniforme.
Oui.
Puis ensuite, de devoir sortir l'uniforme d'un jour au lendemain, puis ensuite d'essayer de se réinsérer dans
dans la société civile.
Dans la société civile, exactement.
Sans uniforme, oui.
Voilà. Sans uniforme, oui. Sans structure ou routine nécessairement qui existe, comme qu'on voit dans les Forces armées canadiennes, exemple, même avec le gouvernement fédéral. C'est un peu différent en tant qu'environnement d'emploi.
Mm-hmm. Donc, écoutez, vous nous avez bien présenté la situation de ces gens-là. À l'instar de l'honorable Ken Eyre, qui est ministre des Anciens combattants, et aussi de d'autres ministres, il y a des programmes qui ont été déployés récemment, ou encore d'autres qui existaient déjà. C'est quoi ces programmes-là qui vont venir soutenir ces personnes-là à retourner sur le marché du travail ou être intégrées dans la société civile?
Oui, non, certainement. Je vais juste indiquer en premier lieu que nous travaillons de façon conjointe avec les Forces armées canadiennes. Mm-hmm. Puis nous avons développé une stratégie. Une stratégie en tant qu'emploi civil et de transition pour les vétérans.
OK.
Et notre vision, c'est vraiment d'assurer que les vétérans sont bien préparés et confiants qu'ils peuvent accéder à un marché de travail qui les accueille favorablement.
Donc, il faut presque faire ça avant le retour. Il faut travailler en amont, même peut-être avant que les gens quittent les forces, non?
Oh, complètement d'accord. C'est un travail de façon très étroite, collaboration, aussitôt qu'on sache qu'il y a une membre de la Force armée canadienne qui vont se libérer pour n'importe quelle raison. C'est important que les anciens combattants canadiens iront, travaillent, puis ils sont capables quand même de gérer, je veux dire, le dossier là, de l'individu, puis tout dépendamment de leurs circonstances individuelles pour pouvoir le faire.
OK. Et donc, c'est quoi exactement les programmes qu'on peut leur offrir? Qu'est-ce qu'on leur donne comme aide?
Oh, oui, certainement. Donc, en tant qu'ancien combattant, nous avons quand même plusieurs services comme tels. Mm-hmm. Je vais vous donner quelques exemples. Ça débute avec l'entrevue de transition. Donc, ça, c'est vraiment un processus d'examen préalable, comme j'ai dit, qu'ils quittent les forces ou que le gestionnaire de cas peut travailler avec les vétérans et leurs familles à définir qu'est-ce qu'ils veulent faire pour leur aider à réussir avec la réinsertion à la vie civile.
Ouais.
Un des programmes, c'est le programme service de transition de carrière qu'on offre. Puis c'est une offre d'une aide concrète aux vétérans et aux survivants qui sont certainement admissibles au programme pour faciliter la recherche d'emploi.
Ouais. Donc, vous aidez aussi les proches, les gens qui ont perdu des gens en combat.
Oui, oui, certainement. Okay. Donc, exemple, lors de l'entrevue de transition, même avant, là, ça se peut que les services de santé mentale doivent être faits. Ça se peut aussi que l'individu n'est pas prêt nécessairement immédiatement après leur libération de se réinsérer. Ils ont peut-être besoin d'avoir des suivis, des traitements pour pouvoir mieux gérer leur santé, puis par la suite être de retour sur le marché du travail.
Et donc, s'ils sont en situation de handicap ou si ces personnes présentent des limitations fonctionnelles, il y a aussi des programmes pour eux?
Oui, certainement. Nous avons un programme de réadaptation. Mm-hmm. Et le programme de réadaptation, c'est vraiment visé pour les gens qui se libèrent à cause des raisons médicales, on va dire. Mm-hmm. Puis ce programme-là aide à retrouver, premièrement, comme je dis, la santé dans toute la mesure du possible, en premier lieu, et par la suite, de faciliter avec un gestionnaire de cas, avec un plan de réadaptation, le retour à la réintégration. Puis si ça veut dire certainement retourner aux études ou une appui pour suivre des cours, quoi que ce soit, là, c'est vraiment en dessous de ce programme de services de réadaptation et assistance professionnelle que ça pourrait se faire.
Parlons aussi santé mentale, puisque bon, beaucoup vivent des chocs post-traumatiques, post-opérationnels, qu'on appelle souvent. Le ministre lui-même disait, il y a cet automne, un peu plus tôt cet automne, donc je le cite, il disait « Vivre avec des problèmes de santé mentale peut être très difficile, non seulement pour ceux qui y sont confrontés, mais également pour leurs proches. Ce projet de soutien et de formation axé sur les compétences apportera des changements positifs dans la vie des participants. » Il parlait d'un programme en particulier qui s'adressait aux personnes qui avaient des problèmes de santé mentale survenus après les forces. Quel est ce programme-là?
Oui, il parle d'un programme par la Société pour les troubles de l'humeur du Canada qui ont récemment reçu un financement à travers un fonds d'intégration pour les personnes handicapées d'Emploi et Développement social Canada.
OK. Donc, c'est le fonds de, ça partit du fonds d'intégration là, qui existait pour les personnes handicapées.
C'est certain, oui.
Okay.
Puis le programme débute, là, mais c'est certain que ça va offrir des services d'aide à l'emploi aux vétérans, qu'est-ce qu'on appelle, ils ont appelé vulnérables, donc qui ont des problèmes de santé mentale comme la dépression. Et ils sont en train de regarder au programme sur une période de 3 ans à Calgary, à Montréal et à Toronto.
OK. Donc, écoutez, on vous souhaite bonne chance pour ce programme. Donc, est-ce qu'il y a une adresse où on doit se rendre, qu'on doit visiter pour l'information sur tous ces programmes, Mme McIntyre?
Bien, c'est certainement le site Web des anciens combattants Canada va vous donner une indication en général. J'aimerais aussi, plus particulièrement pour les employeurs, parce que c'est vraiment, comme j'ai dit, je trouve que c'est un bassin d'employés qui n'est pas nécessairement connu. Il y a le site Web de metforce.ca.
OK. Donc, MedForce, est-ce qu'il est disponible en français aussi, j'imagine?
Oui, il est disponible en français. Oui, il y a une site en français, mais c'est un programme d'aide à la transition qu'on travaille de proche avec une compagnie privée avoir, comme j'ai dit, vraiment pour aider les employeurs à plusieurs domaines.
Donc, on visite soit le site des anciens combattants, Anciens combattants Canada ou encore MedForce.ca. Merci beaucoup, Mme McIntyre.
Parfait. Puis aussi, je pense que c'est important à noter que c'est la semaine des vétérans.
Ah, bon, bien, écoutez, c'est important. Merci de le rappeler. Alors, rappelons d'ailleurs que Mme McIntyre est directrice générale de la division de la politique et de la recherche au ministère des anciens combattants. On se souvient.
Merci beaucoup, M. Rossette.
J'ai bien évalué les options. La fuite n'est pas la solution. Et j'ai bien beau me croiser les doigts. Je crois que t'as tout vu, et ben voilà. Et toute ta gloriole me déserte. Et même l'orgueil vole en miettes. Jupe en tordu et cheveux au vent. J'espère que tu trouves ça charmant. La gravité ne m'aime pas beaucoup. Je tombe souvent sans explication. Même pas la séquise des nous. Même pas une pièce à conviction. Mercurochrome et petits pansements. Pire circonstance, du genre au premier rendez-vous, et proportionnel à l'assistance. Plus y a de monde, plus j'ai l'air fou. Mes genoux embrassent le parquet, rien d'une romance de série B. T'as dit ça va, t'as rien de cassé. Et je suis tombée amoureuse dans l'escalier. La gravité ne m'aime pas beaucoup. Je tombe souvent sans explication. Même pas la séquise des loups. Même pas une pièce à conviction. Mercurochrome et petit pansement. Petite mamzelle de chemin, à petits pas tout près des tiens. Et c'est même pas grave si je perds pied. De toute façon, tu me trouves jolie, même échevelée.
Ingrid Saint-Pierre, qui se transforme momentanément en infirmière. Donc, c'est avec le titre « Mercurochrome et petits pansements » qu'elle nous a amené en musique. Et on reste pas exactement dans la même table, mais on parle maintenant de bénévolat. Vous le savez, on l'apprend, le bénévolat a mille et un visages, mille et une actions, et c'est ce que nous rappelle la campagne annuelle du RABQ, le réseau de l'action bénévole du Québec. Avec nous, un porte-parole qui est habitué de la station d'ailleurs, Jean-Marie Lapointe, et un des visages de cette campagne qui est aussi très habitué à la station, Isabelle Ducharme. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, Isabelle. Bonjour, Benoît.
Bonjour, content que vous soyez là. Eh bien, avant de m'adresser à notre bénévole internationale, qui est Isabelle Ducharme, si tu permets, je vais m'adresser d'abord à Jean-Marie Lapointe. Pourquoi vous avez accepté d'embarquer dans cette aventure de promotion du bénévolat?
Bien, tout simplement un prolongement de ce que je fais dans ma vie depuis au moins une bonne quinzaine d'années. C'était un fit parfait. C'est d'être porte-parole de quelque chose que je fais de façon peut-être plus anonyme, sous le radar. Pour moi, ça allait de soi, puis que ça allait me permettre aussi de rencontrer plein de gens comme moi qui militent pour l'action, j'allais dire humanitaire, mais dans son sens le plus simple, puis à la fois le plus noble. T'sais, donner, c'est bon pour la santé, c'est bon pour soi, c'est bon pour tout le monde. Puis je pense qu'on a tous la capacité de donner. Oui, ça peut être quelques heures par semaine, ça peut être plusieurs heures par semaine, ça peut être aussi une fois à l'occasion de temps en temps. Puis de penser que de mettre mon visage sur une cause qui est déjà intrinsèquement reliée dans ma vie, c'était... Ouais.
Il y a un mariage naturel. Il y a un mariage naturel entre vous et la cause.
Un bon fit naturel, exact.
C'est bon. Mais la semaine est déjà lancée, il faut le dire, depuis plusieurs semaines. Comment ça va, cette campagne-là, Isabelle, Jean-Marie Lapointe? Comment vous trouvez que ça avance?
Bien, en fait, les actions comme telles sont en continu. Hein? C'est pas... Oui, il y a une annonce officielle qui a été faite, mais c'est à l'année que le réseau travaille pour faire connaître le bénévolat, pour que ça devienne de plus en plus naturel de le faire, donc de différentes façons. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que quand il y a une annonce comme ça de la nouvelle campagne, bien, c'est comme un nouveau souffle qu'on donne à cet effort-là. Et pour les actions, c'est encore en devenir. Là. Pour l'instant, c'est surtout l'annonce qui a été faite.
Okay.
Mais les cassiers d'action concrètes comme les promotions qui vont venir justement avec les visages qui ont été annoncés lors de la conférence de presse, mais ça va commencer plus en janvier, d'après ce que j'ai compris.
Ah, il faut dire que vous faites partie de ces visages, Isabelle Ducharme. On vous voit, vous allez parler de votre propre histoire. Comment vous approchez, Isabelle?
Bien, en fait, c'est un concours qui a été annoncé où on demandait aux gens si vous connaissez des bénévoles qui se démarquent, soit parce qu'ils sont différents, ou des gens qu'on s'attendrait peut-être pas à ce qu'ils fassent du bénévolat, ou qui viennent de milieux différents, etc. Et c'est Kéroul qui a soumis ma candidature en me demandant l'autorisation, bien sûr.
Ah ben une chance. Parce que c'est toujours volontaire, le bénévolat, il faut le dire.
Oui. Oui, puis je veux dire, c'est toujours c'est tout un honneur, mais on comprend bien que c'est pas pour ça qu'on le fait non plus. Tu sais, on le fait pour le plaisir de le faire, pour le bien que ça nous apporte à nous de faire du bien aux autres.
Mm-hmm.
On se le cachera pas non plus que ça fait toujours plaisir quand il y a un moment comme ça où c'est souligné qu'on fait ces efforts-là, puis ces moments, ces actions-là.
Bien, c'est important de reconnaître. D'ailleurs, plus tôt à l'émission, Jacinthe Roy nous parlait de reconnaître les ambassadeurs, que c'était très important. En fait, c'est un peu ce que vous dites. Il y a 10 ans, le Réseau de l'Action bénévole du Québec a mené une étude où on apprenait les principales motivations pour faire du bénévolat. C'était une question le plus souvent de valeur personnelle. C'est ce qu'on se disait à l'époque. Est-ce que vous pensez que c'est encore vrai? Est-ce que c'est dans vos valeurs, Isabelle, Jean-Marie, de faire du bénévolat?
Bien, honnêtement...
Vas-y, Isabelle.
quand on a fait cette démarche-là, j'ai fait une espèce de réflexion à savoir depuis quand je fais du bénévolat, pourquoi je le fais, etc. Parce que pour moi, c'est un automatisme. Puis je me suis dit, oui, mais il faut bien que j'aille commencer quelque part.
Oui, c'est ça.
Et je me souviens très bien que déjà, quand j'ai fait Katimavik, c'était du bénévolat.
Oui.
J'avais 17-18 ans.
Par la suite, quand je travaillais plus dans l'Ouest canadien, on avait décidé de faire un événement bénéfice pour les enfants malades de la région où je travaillais. Fait que c'est pas d'aujourd'hui. Puis effectivement, c'est toujours cette espèce de sentiment de moi je vais bien et c'est quasiment un devoir pour moi parce que justement ma vie va bien de donner à ceux qui en ont besoin.
Ben voilà, c'est par devoir, c'est ce que vous dites. Jean-Marie, pourquoi vous bénévolez?
Oui, puis c'est le mot que j'aime utiliser. D'ailleurs, bénévolé, je pense qu'il est de plus en plus répandu. Les gens me regardaient bizarre quand j'utilisais le mot bénévolé. C'est naturel. En fait, c'est devenu naturel chez moi. Puis je pense qu'Isabelle le résume bien. Tu sais, on peut s'arrêter puis se poser la question pourquoi on le fait. On peut aussi s'arrêter puis se dire mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas le faire?
Oui.
Et pourquoi on ne devrait pas le faire? C'est quoi notre motivation? Et je pense que dans certains cas, par exemple, une femme monoparentale de 5 enfants, ben je pense que son bénévolat, en dehors de ses 3 jobs pour arriver à faire vivre sa famille,
oui.
Son bénévolat, elle le passe à la maison avec des jeux de société avec ses enfants, en faisant le taxi pour aller reconduire ses enfants dans différentes activités. Moi, je pense que c'est ça. Alors, dans mon cas, ben j'ai pas d'enfants, je suis pas en relation, donc j'ai pas de responsabilité à la maison autre que mon petit nombril.
Ouais.
Alors, le bénévolat, c'est ça. Ça me fait me décentrer de mon petit nombril pour m'ouvrir vers un monde où je rencontre des gens différents, extraordinairement riches,
ouais.
Et qui m'apportent et qui me font grandir. Donc, puis en même temps, on peut...
C'est aussi le plaisir des rencontres, le bénévolat. C'est ce que vous dites aussi, là. C'est la possibilité, pas juste d'aider, mais d'être avec les autres.
Ben écoutez, avec les réseaux sociaux, on en parle souvent, hein, c'est rendu un cliché de dire que on a beau être en contact avec des milliers de personnes sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, mais de ces milliers de personnes-là, avec qui on est vraiment en contact humain, on est capable de leur serrer la main, de se regarder dans les yeux, très, 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 très peu. Donc, les réseaux sociaux nous donnent une fausse impression d'être complètement entouré et être en contact avec des gens. En fait, la personne qu'on tient, en fait, l'objet, c'est bien plus notre petit téléphone cellulaire qui nous ouvre vers le monde,
oui.
Et qui nous isole dans notre...
Mais écoutez, donc, vous êtes des très beaux humains qui rencontrez des humains par le bénévolat. J'ai envie de parler de d'autres humains aussi qui sont les mêmes, mais qui ont peut-être des besoins particuliers parfois. Les personnes en situation de handicap, Isabelle, très impliquée, est-ce que vous trouvez que le bénévolat, c'est séduisant pour les personnes en situation de handicap? Est-ce que vous trouvez aussi qu'on fait place aux personnes en situation de handicap qui sont bénévoles?
Si les personnes en situation de handicap sont des gens qui font beaucoup de bénévolat?
Oui, par exemple. Oui, j'avais posé 3 questions et demie en même temps. Je m'excuse.
Non, ça va. Oui, en fait, je vous dirais que en y réfléchissant, on dirait que c'est quand même assez... Je pense que c'est plus présent encore que dans la moyenne de la société parce que souvent, les gens qui sont en situation de handicap voient des causes et veulent les épouser et sont prêts à faire plein de choses pour cette cause-là. Que ce soit, tu sais, on a un événement bénéfice qui s'en vient, on a des envois à faire, on a juste à faire un petit coucou, on aurait besoin de quelques bénévoles pour nous aider à faire ces envois-là, à préparer ces envois-là. Bien, généralement, les premières personnes qui vont lever la main, ça va être des personnes qui sont en situation de handicap, qui sont membres de cet organisme-là. Des gens aussi qui sont peut-être plus près des autres aussi. Ils prennent plus ils voient plus des gens qui ont des besoins autour d'eux.
Okay.
Donc oui, je penserais que oui.
Ben écoutez, vous êtes d'extraordinaires ambassadeurs et porte-parole. Juste avant qu'on se quitte, il faut dire aux gens que pour avoir plus d'informations, non seulement sur cette campagne, mais aussi d'avoir accès à des outils qui peuvent nous aider, nous qui cherchons à faire du bénévolat ou nous, organismes qui recherchons des bénévoles. Et je parle bien sûr du site du RABQ, hein, la campagne pour laquelle vous faites du bénévolat en ce moment. Donc, je rappelle qu'on peut retrouver toute cette information-là au rabq.ca.
Hein? Oui, puis peut-être aussi mentionner que si les gens connaissent des bénévoles qui seraient méritoires d'un prix, il y a un prix qui est remis annuellement par le gouvernement du Québec et qui est en pleine campagne là, présentement et qui recherche des bénévoles méritoires, soit des organismes ou des individus. Et vous pouvez trouver les coordonnées sur le même site.
Tout va bien. À la même adresse. On la répète donc, rabq.ca. Merci beaucoup, Isabelle Ducharme, présidente bénévole de Kéroul. Merci.
Plaisir.
Jean-Marie Lapointe, porte-parole de la campagne. Merci beaucoup.
Bien, merci à vous deux. Bonne journée.
Prenez soin de vous et donc continuez de propager le plaisir de bénévoler. Vous étiez sur les ondes de Canal M, bien sûr, à l'émission Accès libre et j'aimerais remercier Diane Bergeron, cette coureuse ambassadrice de l'INCA, Geneviève Guernier, cette activiste, j'oserais dire, qui aide tant les gens grâce au Front commun des personnes à cité sociale, Jacinthe Roy, qui bénévole depuis longtemps et qui, en plus, les conseille comme directrice générale de la PGP, Faith McIntyre, qui nous aide, nous, anciens combattants en situation de handicap. Bref, l'aide est au rendez-vous et je voulais aussi remercier cette équipe géniale grâce à laquelle on arrive à livrer cette émission. Anne-Laure Janson à la recherche, Christiane Campagna aux communications et Jean-Sébastien Laliberté qui trouve toujours des chansons de jeunes groupes sympathiques, folk, machin, machin. Donc, avant de se quitter, parce qu'on se revoit la semaine prochaine, juste vous dire qu'on discutera de la consultation pour les soins des aînés. Pierre Blain du RPCUQ, Paul Brunet du Conseil de protection des malades, qui regroupe des tonnes de comités d'usagers, vont être là pour discuter des enjeux. Ici Benoît Racette. On se retrouve la semaine prochaine et ensemble, on va faire, évidemment, éventuellement, un accès libre.